détail, M. Couchard, parce que vous le connaissez, enfin beaucoup d'entre vous le connaissent. Néanmoins, il me paraît utile de rappeler que par sa profession d'abord, par sa passion ensuite, il domine tout à fait la question de l'archéologie en ce qui concerne la Corrèze. Vous le savez, sa profession, qui était dans le domaine du génie civil, qui l'a amené à travailler dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les questions d'environnement. Il a été en contact avec toutes les mairies, avec toutes les municipalités. Il a arpenté, le mot n'est pas trop fort, le département. Et cela lui a permis de pouvoir satisfaire sa passion, l'archéologie, en repérant partout où c'était possible tous les indices qui semblaient être des traces de la préhistoire. Et aujourd'hui, eh bien, M. Couchard va vous faire profiter de son expérience.
Merci. Chers amis, bonjour. Et je vais, avant, vous, j'ai une lampe à la fin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous donner un peu les... Ah oui, si je ne parle pas assez fort, vous me le dites, parce que ces temps-ci, je suis un peu en route. La conférence que j'offre aujourd'hui aux amis de la Société archéologique, c'est... un peu, je ne vous dis pas un au revoir, mais c'est pour mettre un peu d'ordre, si vous voulez, dans ce qu'est devenu l'archéologie préhistorique par rapport à ce qu'elle a été, et comme vient de nous le dire notre président des amis du musée, Je suis rentré, si vous voulez, dans ce milieu il y a déjà très longtemps. C'est en 1951-52. Et il y a eu beaucoup de changements qui sont intervenus depuis, tant sur le plan scientifique que sur le plan administratif, dans tout ce qui concerne les recherches archéologiques. Alors, ce que je vous propose, je vais vous parler de la situation. On va faire un historique rapide de ce qui s'est passé depuis les premières études sur le terrain jusque pratiquement à maintenant. Les premières recherches ont eu lieu en 1850. Tant qu'il est vrai, on peut appeler ça des recherches. Nous savons qu'une petite cavité qui se trouve sur la rive droite du ruisseau de Plachetorte, en dessous du village de Chavoucujol, avait été plus ou moins visitée par quelqu'un dont on ignore le nom. On n'a pas récupéré encore le nom. Et qui s'était livré à ce que l'on peut appeler une fouille. Il faut bien lui donner un nom. Ce qu'il a trouvé, ben on n'en sait pas plus que du reste. On sait que ça a existé. On sait que c'était en 1850. Alors on peut considérer que c'est un début. Ensuite, il faut jeter un œil discret sur ce qui se passe chez le voisin de la Dordogne. Dès la fin du 19e, il y a pas mal de recherches qui vont se faire aux Aisies. Et d'une façon plus intense que, bien entendu, dans les départements limitrophes. Et alors, tout ce qui se passe là-bas, eh bien, ça finit par se savoir à Brive. Et il se trouve, et dans la région de Brive, il se trouve que là, nous avons... autant une demi-douzaine peut-être, de personnes qui sont intéressés par l'archéologie et qui plus est par l'archéologie préhistorique. Alors, je pourrais vous donner des noms. Il y avait Gay, il y avait de Rochebrune, il y avait Soulenja, et d'autres, mais c'est des noms qui ne vous diront pas grand-chose. Et ces gens-là, eh bien, qu'est-ce qui les avait poussés à s'intéresser à ces époques-là, nous ne le savons pas non plus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils s'étaient livrés à des recherches. Il faut bien toujours donner un nom. Et les premières de ces recherches ont eu lieu dans la vallée de Planchetorte. Alors, il s'est livré, il travaillait individuellement, hein, c'était pas une organisation. Alors, ils ont commencé à gratouiller, si vous voulez, un peu devant les grottes, sa méthode bien définie. Et ils ont rencontré là-dedans des silex taillés, des pierres dures taillées. On savait qu'il en avait été trouvé ailleurs. On commençait à parler un peu de préhistoire, pas beaucoup. Et ils ont continué à pratiquer ces recherches pendant quelques temps. Mais ces recherches ne nous ont pratiquement rien apporté ou presque. Alors là, dernièrement, j'ai été interrogé en tant que président des Amis du Musée, et j'ai dit, nous n'avons pratiquement rien dans les réserves, très peu de choses, des choses insignifiantes. Concernant ces époques-là, et les recherches qui ont donc été faites à ces époques-là, nous sommes toujours dans le vide. Et il va falloir attendre tout à fait la fin du 19e siècle pour voir arriver des personnes qui vont changer complètement le cours des événements. Le premier dont je vais vous parler des deux qui ont surtout fait parler d'eux, c'était Élie Masséna et Philibert Lalande. Élie Masséna était industriel à Malemort, fabriquait du papier, et Philibert Lalande était préparateur en pharmacie. Donc ni l'un ni l'autre ne laissait penser qu'il s'occuperait d'archéologie. Alors on va employer un mot que je n'aime pas, parce qu'il a été galvaudé de différentes manières, c'est le mot « amateur ». Les amateurs, en général, ce sont des gens qui aiment quelque chose ou qui aiment ce qu'ils font. Mais ce ne sont pas pour autant des farfelus. Et là, nous avons donc en tête Élie Masséna et Philibert Lalande qui vont, eux, prendre les choses en main, mais d'une façon, sinon rationnelle, tout au moins peut-être plus scientifique. Ils vont commencer par la vallée de Planchetorte, parce que c'est là que les antécédents disent qu'il y a eu des recherches, et ils vont en faire aussi. Alors là, eux autres, ils vont vraiment fouiller. Ils ne vont pas se contenter de faire des grattages devant les grottes, dans les déblais ou les rejets des remplissages. Ils font des fouilles, de véritables fouilles. Alors évidemment, vu d'aujourd'hui, avec les progrès que nous avons faits, qui ont été faits, on a toujours tendance, surtout peut-être un peu les dernières générations, à critiquer comment qui est travaillé, c'est vrai, à regretter que certaines recherches ont eu un caractère, disons, destructif. C'est vrai. Mais ce sont eux qui, quand même, nous ont apporté les premières bases, un peu conséquentes, si vous voulez, de tout ce qui avait pu se passer ces lointaines époques. Et petit à petit, d'autres vont venir avec eux. Et ainsi, on va arriver aux deux dernières années du siècle, et là, on va voir arriver aussi, d'abord, un jeune séminariste du nom de Jean Bruissoli. Il vient de terminer ses études au petit séminaire et il va aller à l'Institut supérieur de philosophie d'ici les Moulineaux, à Saint-Sulpice. Et là-bas, il va rencontrer parmi ses professeurs, d'abord en entrant, comme tout ce qui est les organisations à caractère, comment dirais-je, de groupe, d'organisations de ce genre, ça existe à l'école, ça existe à l'armée, ça existe ailleurs, le fameux ordre alphabétique, sans quoi on ne pourrait vraiment rien faire. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver avec un nommé Henri Breuil, il y en a un c'est Breuil, l'autre c'est Bruissoli, et ils vont se retrouver cochambristes. Les deux jeunes gens, dès le premier abord, s'entendent bien, sympathisent, et ils vont bénéficier tous les deux des cours, en particulier d'un certain abbé Guibert. Alors cet abbé Guibert est professeur de sciences. Et parallèlement à ses fonctions d'enseignant, il recherche à concilier les nouvelles théories évolutives avec les dogmes de la chrétienté, un genre de quadrature du cercle. Bon, cette affaire n'a pas l'air d'intéresser beaucoup notre ami Jean Bruissoli. Il est issu d'une famille très pieuse, très croyante. Il ne va pas tout. Non, ses conceptions évolutives, ça n'a pas l'air de l'enchanter particulièrement. Henri Breuil, lui, c'est différent. Ça l'intéresse. Il a un caractère caractère curieux, mais je le connais peu, mais enfin je l'ai rencontré quelques fois. C'est quelqu'un qui aime bien soulever les choses pour voir ce qu'il y a dessous. Et il a donc suivi les cours de l'abbé Guibert avec intérêt. Et tout ça, ça va les amener à la fin de leurs études. Et Jean va revenir à Brive. Mais avant de revenir, c'était, je crois, les premières grandes vacances qu'ils avaient. Il invite son ami Henri Breuil à venir dans sa famille en Corrèze, à la propriété de la Russie, à la côté de Beaulieu. Et il le présente à son frère, qui lui enseigne la philosophie au petit séminaire, et il le présente aussi à un de leurs professeurs, l'abbé Bardon, Louis Bardon. Louis Bardon est originaire de Noailles. Étant gamin, on le trouvait dans toutes les grottes où il allait farfouiller, là-dedans, bon, il avait une attirance. On est en 1897-18, et Louis Bardon, lui, farfouille dans la vallée de la Couronne, où il a trouvé une grotte qui l'intéresse, et il avait raison d'aller y gratter, puisqu'effectivement, il y rencontre des vestiges d'archéologie préhistorique. Alors là, il est bien tranquille, quand il a du temps, il va là-bas, il gratouille, il ramasse. Bon. Et les théories de l'abbé Guibert, qu'il connaît au demeurant, lui font dresser l'oreille, lui aussi. Oh, il ne va pas s'enthousiasmer, mais ça l'intéresse un peu aussi. Alors on va laisser l'abbé Bardon en réserve, on va le retrouver tout à l'heure. Et donc Jean Bruissoli poursuit ses études. Bon. Ensuite, vers 1904, crois même que c'est en 1904, son frère le fait revenir à Brive. Et le fait entrer comme professeur de sciences au petit séminaire. Bon, les deux frères donc vont rester là. Rien ne se passe de trop scabreux encore à ce moment-là, mais ça commence à pointer. Jean Bouissonni va retrouver notre ami Louis Bordeaux, et tous les deux vont aller faire quelques recherches. Alors, cette fois sur Noailles. Pourquoi ? Parce que Bordeaux est originaire de Noailles. La grotte de Chesser, bien sûr qu'il la connaît. Et il a flairé que là-dedans, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Il y amène son ami Jean Bouissonni. Et les voilà tous les deux qui se mettent à fouiller vers 1900. Voilà. Ils se mettent à fouiller la grotte de Chesser. Et ce qui était prévu est arrivé. Ils tombent sur un gisement particulièrement riche. Donc les intéressaient tous les deux. Et à ce moment-là, Jean Bouissonni va faire une année d'un seul coup comme ça. Il va aller faire une année de plus à Saint-Sulpice. Bon. Quand il va revenir de Saint-Sulpice, les affaires pour les écoles privées commencent à se noircir. La loi Combes, 1906, et le 13 décembre 1906, le petit séminaire ferme ses portes. Et il s'évacue sur la commune de Cublac, oui, et là, il s'installe dans un grand domaine, tombé en abandon, plus ou moins, et qui vont remettre en état. Et c'est le fameux domaine de la cabane où ils vont recréer donc ce qu'ils avaient perdu ici. Ils vont le recréer là-bas. Jean va faire un séjour entre-temps à Limoges, dans une école privée. Et puis il ne va pas y rester. Il va y rester une année, je crois. Et son frère le fait revenir. Encore une fois, il le fait revenir, mais cette fois, il ne quittera plus la région. Alors, ils sont à la cabane, et à la cabane, ils sont évidemment beaucoup plus éloignés de la grotte des grottes de Planchetorte. Ça ne les empêche pas de venir y fouiller. Alors là, j'avais essayé d'avoir quelques renseignements de Bouissonni lui-même, déjà, mais... Je sais pas, il avait l'air, il n'aimait pas trop que je lui pose des questions sur cette partie-là, parce que je lui ai dit, vous faisiez comment pour aller là-bas avec les élèves? On n'a pas cherché plus loin. Je sais qu'il a eu une voiture, tout un temps, mais je connais le genre de la voiture. Ceux qui en ont connu quelques exemplaires comme celle dans mon genre, c'était la fameuse trèfle. On ne pouvait pas amener grand monde là-dedans. Hein. La main-d'œuvre ne leur manquait pas pour travailler, parce que cette main-d'œuvre, elle était utilisée. Je ne sais pas si le jeudi après-midi, ces écoles-là étaient en congé ou pas. Je n'ai pas beaucoup de renseignements là-dessus, bien qu'étant issu de parents et grands-parents instituteurs de ces hautes époques. Mais ce qui est sûr, c'est que le dimanche après-midi, ils y allaient. Alors, on amenait là-bas, parce que là, évidemment, ils étaient tous internes. Alors, qu'est-ce qu'on amenait là-bas? Ben, on amenait quelques volontaires, et puis, l'école du dimanche, ma foi, après tout. Plutôt que de faire des kilomètres sans intérêt, autant aller farfouiller là-bas. C'est ce qu'ils faisaient, donc ils avaient toujours eu un peu de main-d'œuvre. Les premières découvertes scientifiques vont se faire. D'abord, Jean, avec l'abbé Bordeaux, ils s'entendent tout à fait bien pour tout ce qui est technique, tout ce qui est science de la Terre, comme on dit aujourd'hui. et ils vont créer, ils vont chercher tout au moins des méthodes de fouille. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ils en découvrent une qui a l'air de leur convenir, et qui d'ailleurs sera utilisée encore longtemps, moi j'ai commencé comme ça il y a quelques temps. Et effectivement, ça, c'est une méthode qui finalement en vaut une autre. Et ils vont commencer à publier, chose qui n'existait pas avant. Parce que les anciens dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils n'ont pas publié ou quelques petites notes comme ça, en passant par le canal des sociétés culturelles, comme la société archéologique ici, la société des lettres et aratules. Il n'y en avait que deux, pour être à ce moment-là. Et les deux possédaient un bulletin. Et ils ouvraient leurs portes à ce moment-là à toute personne qui pouvait amener quelque chose d'intéressant pour leur bulletin. Et eux aussi, au début. Puisque ça s'était créé en 1878, les deux à un ou deux mois d'écart. Et donc, Jean Brissoni va commencer à publier. Les premières publications qu'il va faire, eh bien, ça va être évidemment la grotte de Chesser, la grotte de Noailles. Celle-ci va sortir en 1903, je crois. Quelque chose comme ça. Première publication un peu conséquente. Et puis, on va suivre. Il va y en avoir d'autres. Les deux Brissoni et Bardon vont faire une équipe extrêmement soudée. On va bientôt leur donner une appellation raccourcie. On ne va pas dire les abbés Amédée, Jean Brissoni et Louis Bardon. Ce sera les 3B et c'est toujours resté les 3B. Et pour nous, archéologues du temps présent, lorsqu'on parle entre nous ou qu'on donne des références, eh bien c'est toujours les 3B, tout le monde sait ce que ça veut dire. On va aller comme ça pratiquement jusqu'au début de la guerre. La nôtre. Bon, non, pas la nôtre d'abord, la leur. On va jusqu'à 1914, évidemment. Jean Brissoni, et comme beaucoup d'autres, est mobilisé. Et on ne va plus s'occuper d'archéologie jusqu'au début des années 1920. En 1920, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser à l'archéologie. Bon, les Delsol, les Kider, les autres. Bon, ils vont eux aussi rechercher des chantiers de fouilles. Les Brissoni, c'est eux qui les ont orientés vers telle ou telle direction. Et pendant, entre 1920 et, disons, 1939, les fouilles vont se succéder, aussi bien dans la vallée de Planchorte que dans la région immédiate de Brive. Et alors là, il y a un secteur qui n'avait pas intéressé ou très très peu intéressé les archéologues du début, c'est les Causses. Ces Causses, vous savez, qui s'étendent sur le sud-ouest du département et qui ont comme particularité d'être des pays très arides, qui n'étaient pas cultivés, sauf dans des bas-fonds, des dolines. Et le fait qu'ils n'étaient pas cultivés, ça a permis de conserver, évidemment, des constructions très anciennes, en particulier des constructions même préhistoriques, qui ont disparu ailleurs. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est parce qu'elles gênaient. Elles gênaient. Et puis, tout simplement, gênaient pour la bourrée, gênaient pour tout, vous savez. Bon, vous savez, j'ai vu disparaître comme ça les restes de dolmen à côté des abîmes de, qui sont là, attendez, je cherche le nom maintenant, qui sont sur la route de Gramat. Bon, Je l'ai vu là pendant 20 ans, puis un beau jour, ils l'ont enlevé. Tout ce qui est resté, ils l'ont enlevé. Je ne sais même pas s'il a été fouillé. Bon. Donc, ils vont s'intéresser à ces secteurs. Seulement, voilà, ces secteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est là où on va retrouver nos pionniers du début, ces secteurs ont déjà été bien malmenés. Les dolmens sont vides depuis très longtemps. Très, très longtemps. Même très probablement, il y en a la plupart qui n'ont pas connu l'époque même médiévale. Ils étaient déjà, il n'y avait déjà plus rien. Là, il était vide. Bon. Restaient des sépultures plus récentes, en particulier celles qui datent du premier âge du fer. Pour nous, ici, entre moins 800, moins 1000. Ce sont ce qu'on appelle des tubulus, ce sont des tertres. Il y en a qui sont plus ou moins élevés, qui vont jusqu'à 2 mètres, un peu plus. La plupart, en général, n'ont que 50 ou 60, 70 cm de hauteur au milieu. Ils font entre 6 mètres et 10 mètres de diamètre. D'autres sont un peu plus longs, un peu plus grands. Bref. Et alors là, au moment de l'équipe Masséna et Philippe Lerlande, ils vont aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Et alors là, c'est autre chose. Ils n'ont pas plus d'expérience pour ce terrain qu'ils en avaient pour ce qu'ils faisaient dans la ville de Plastor. Ils ne savent pas bien par quel bout le prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont creuser au milieu. Et ils vont cratériser ces tombes dans lesquelles ils vont finalement pas trouver grand-chose. Très peu de choses. Seulement, ils ont détruit l'architecture. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y en avait eu. On en reparlera. Et si on va donc on va vivre avec les publications de Buissonni, enfin des 3B, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Bon, Jean Buissonni est mobilisé. On ne le verra revenir qu'en 1919 et en 1920. Il va reprendre donc le cours de ses recherches. Et alors là, on va voir arriver quelques nouveaux. Les Del Sol et autres qui vont se joindre à eux. Et eux, ils vont faire de petites équipes autour d'eux. Cette fois, ils ne vont pas se contenter des élèves, ils vont réunir des personnes qui veulent s'intéresser à la préhistoire. Et alors là, on tombe avec des personnes qui ont un bon bagage au point de vue études. Et on trouve là-dedans qui ? On trouve des enseignants secondaires. Très peu d'enseignants des écoles primaires. Ils viendront plus tard. On trouve des gens du corps médical. On avait déjà Philippe Verlalande qui était presque du corps médical, mais là on va en trouver d'autres. Et ceux-là, j'en ai connu certains, j'ai connu donc Jean Buissonni, pas Jean Buissonni, j'ai connu Chénier, docteur Chénier à Terrasson, et puis d'autres qui étaient en Dordogne ou dans le sud de la France. Donc, nous avons affaire à des gens qui ont un solide bagage, et avec les Buissonni, Jean était aussi diplômé que son frère, ils avaient des diplômes plein de poches. Eux autres, ils vont changer complètement le cours de la prise. D'abord, la première chose à laquelle ils vont s'atteler, c'est à essayer d'appeler les choses par un nom qui tient compte de leur fonction. des outils ou des armes, il faut leur donner un nom qui correspond à leur fonction et que tout le monde utilisera. Parce qu'avant, c'était la grande fantaisie, hein, on comparait ça, il y avait de tout, il y avait les becs de canard, il y avait les feuilles de sol, il y avait les feuilles de tout, alors oui, des trucs de ce genre, chacun avait son vocabulaire. Et alors là, les Brissoni, ils ont mis de l'ordre, d'abord. Ensuite, ils ont pensé qu'il fallait en quelque sorte normaliser la représentation de tout ce matériel. Parce que tout le monde n'est pas doué pour le dessin. On peut être un très bon chercheur et un très mauvais dessinateur. Et il y avait donc quelques personnes qui étaient très douées pour le dessin, mais qui donnaient des dessins qui n'étaient pas des dessins techniques, si vous voulez. On recherchait la ressemblance, certes, et il l'obtenait, parce qu'il y a un très bon dessinateur, comme par exemple Elie Masséna, qui était un dessinateur remarquable. Il nous faisait de très très beaux dessins de toutes les pièces qu'il trouvait. Mais ces dessins ne vous expliquaient pas, si vous voulez, quel était le mode de création de ces outils. Il fallait donc inventer quelque chose. C'est Breuil qui va l'inventer. Breuil est doué pour le dessin, très doué. Et Breuil va, avec son ami Brissoni, ils vont travailler toujours, bien qu'étant séparés, ils vont toujours travailler par correspondance. Et correspondance, je peux vous dire que moi, j'ai vu des piles comme ça chez Brissoni, des lettres de Breuil. Bon. Et on en a porté pour une personne qui veut faire actuellement là. Une biographie de Chénier m'en a porté à contrôler, enfin, si on veut dire, il m'en a porté un stock. Bon, alors, il reste un rapport, ils discutent entre eux, j'ai eu ces lettres en main où ils discutent, mais ils sont très pointilleux et très. Eh, on peut appeler ça comme ça, il faut appeler autrement. Et puis alors, ils discutent aussi de la façon dont tout ce matériel a été construit. Et ils vont rechercher, Breuil, le premier, va rechercher à trouver un mode de dessin qui, tout en restant quand même agréable à voir, va renseigner sur la façon dont ce matériel a été fait. Vaste programme. Je l'ai pratiqué, je vous en parle en connaissance de cause. Bon, il faut donner le volume, c'est évident. La troisième dimension de dessin, c'est pas évident. Et ensuite, il faut montrer comment ça a été créé. Et ça, c'est par le pouvoir des hachures, qu'on arrive à le faire. C'est tout un art. Breuil en est l'inventeur. Beaucoup pensent que c'est Brissoni. Non, l'inventeur, c'est Henri Breuil. Les premiers dessins d'Henri Breuil, j'en ai quelques représentations, quelques-uns. Et ils étaient déjà, on peut dire que c'était presque la perfection au point de vue didactique. C'est lui qui va apprendre à Jean Brissoni le dessin. Et bientôt, l'élève va dépasser le professeur. Ce que Henri Breuil va accepter avec beaucoup de facilité, croyez-moi, et il va en user et en abuser pendant toute sa vie. Je vous parle en connaissance de cause. Jean Brissoni ne savait pas dire non, il n'a jamais su dire non de sa vie. Et tout ce que Breuil lui demandait, ben, il l'exécutait. Alors Breuil a fait faire des centaines, des centaines et des centaines de dessins de silex. Donc, la reconnaissance du maître était là. Et puis, Brissoni est un batteur aussi. C'est l'homme des chiffres. Vous savez, avec modération, hein, parce que finalement, tous les gens, tous les techniques, on en use, mais vous savez, c'est pas notre tasse de thé. Hein. On fait parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bon. Et alors, il avait remarqué, parce que il faut que je revienne un peu en arrière. et ça, ça leur a été reproché beaucoup plus tard, on disait les buissonniers, ils fouillaient pendant une saison, ils fouillaient ici. La saison suivante, ils fouillaient là-bas. Un an après, ils étaient de l'autre côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont passés d'un site à l'autre très rapidement. Ils ne sont pas restés longtemps au même endroit. Mais ça leur a apporté quelque chose. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des similitudes entre ce qu'ils trouvaient ici et là. C'était très intéressant. On savait que ça avait été vraisemblablement fait au même moment, qu'en plus ces gens-là pouvaient avoir des relations, et la préhistoire, c'est pas de mesurer et tout, d'ailleurs mesurer n'est pas connaître, hein. C'est de savoir ce qui s'est passé, et puis c'est la science de l'humanité. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à savoir qui ils étaient, ces bons hommes, ce qu'ils pensaient, comment ils vivaient. Bon, on n'est pas là que pour faire des statistiques. Et Jean Buissonnier l'avait très bien compris. Mais il a créé des systèmes de tableaux, toujours en utilisant dans le même ordre le classement des pièces, en leur donnant un numéro et en faisant des pourcentages. Et ils se sont rendus compte très rapidement que telle pièce, bon, eh bien, il y avait, sur des gisements qui étaient supposés de même époque, eh bien, on retrouvait les mêmes pourcentages. Et ça, c'était une avancée remarquable en matière scientifique. Parce que quelques temps avant, quelques années, même pas des dizaines d'années, des années, on n'était pas arrivé à ce genre de déduction, vous pensez bien. Bon, et là, avec ces tableaux, c'est devenu clair. On a dit ça. Ça s'est fait au même moment. De l'autre côté, le matériel, on l'appelait toujours par le même nom, telle pièce, tel usage, tel nom. Les dessins montraient de quelle façon ça avait été fait, quelle était la chronologie du travail. Inutile de vous dire que pour en arriver à ce niveau-là, il avait quand même fallu, évidemment, chercher, se consulter, ce que faisaient Boy et Buissonni sans arrêt. Parce qu'à l'époque, vous savez, ils n'étaient pas nombreux à travailler, très très peu nombreux. Il y avait des préhistoriens ailleurs, mais des préhistoriens qui ont travaillé comme travaillaient Breuil et Buissonni, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Et on va arriver à la Deuxième Guerre. Et alors là, bon, Buissonni a déjà un âge certain. Il y a eu quelques nouveaux qui sont venus, ceux qui ne sont pas revenus, évidemment, brillent par leur absence, il y en a malheureusement pas mal, et puis on va reprendre cas après la guerre. Mais entre-temps, il y a eu deux événements, il y en a un qui est très ancien, ça a été la loi sur les fouilles de 1901. J'aurais dû en parler quand le moment était venu. Bon. Cette loi sur les fouilles intervenait justement pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi en archéologie, qu'on ne puisse pas gratter n'importe où. Voilà. Donc il fallait créer donc une loi de façon à dire ce qui était permis, ce qui ne l'était pas, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Je viens d'ailleurs de rapporter un exemplaire revu et corrigé là, à mon collègue de Cologne. Ça va lui servir maintenant qu'il est président de la Société des Amis du Musée pour peupler ses insomnies. Bon. Alors, donc voilà pour la sur les fouilles. Mais pendant l'occupation, pendant le temps du gouvernement de Vichy, il s'est créé des régions. Allez, ça se faisait déjà. Bon, alors nous avions l'honneur et l'avantage de faire partie de la région Auvergne-Limousin. Oui, parlez du peu. Ces régions avaient à leur tête deux directeurs pour l'archéologie. Un pour l'archéologie préhistorique, un pour l'archéologie protohistorique et médiévale. Dans chaque département, on avait créé un poste de correspondant. Alors, ces correspondants, en principe, on leur disait, vous savez, vous n'avez pas grand-chose à faire, simplement, vous recevrez des instructions qu'il faudra dispatcher, vous nous en accuserez réception, quand il se découvre quelque chose, autant que possible, essayez d'avoir des éléments et de nous les faire parvenir, autrement dit, tant de fois, vous n'aurez pas grand-chose. Et c'est ainsi qu'un nommé Henri Delporte, que j'avais connu au Centre régional d'études de recherche préhistorique des ISI, un beau jour m'a écrit en me disant « Est-ce que vous accepteriez d'être mon délégué pour le département de la Corrèze ?» Et puis il a ajouté ben, « J'ai pensé à vous parce que je sais que vous connaissez bien le terrain, que vous avez des relations avec beaucoup de municipalités, etc. Et » autrement dit, on allait loin, rejoindre l'utile à l'agréable. Fait l'agréable, je ne savais pas encore. Alors, finalement, j'ai commencé, au bout d'un mois, j'avais à peu près ça comme archive. Au bout d'un an, c'était arrivé à ça. Et quand j'ai passé le flambeau, ça faisait la longueur de la table. Sans compter tout ce qui était passé à la poubelle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que ces directeurs régionaux, comment voulez-vous qu'un seul bonhomme arrive à gouverner sur 15, 20 départements, tout comme ça. Alors on avait mis donc ces fameux correspondants qui, soi-disant, n'avaient rien à faire. Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que le vrai travail de direction, c'était nous qui le faisions. Le directeur de région, ainsi que ses correspondants, nous n'étions pas fonctionnaires. Nous étions vacataires. Et permettez-moi de vous dire qu'avec ça, on n'allait pas très loin. À l'époque, je fumais, ça me payait à peine mes cigarettes. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors là, nous allons arriver donc après la dernière guerre et nous fonctionnons donc avec ce système. Moi, je vais m'y trouver coincé pendant 6 ans. Comme ils ne savaient pas encore ce qu'on allait faire, on m'a demandé d'en faire un de plus. Et avec la profession que j'avais, ça devenait plutôt lourd. Autrement dit, dès que j'ai pu saisir une porte de sortie, j'ai fait comme presque tous mes collègues, je l'ai prise le plus vite possible. Alors, on a été remplacé par autre chose. On a fait d'autres régions. On a fait d'autres régions plus petites. Plus petites. C'est-à-dire que la région Auvergne-Limousin a dû éclater en 4 ou 5 régions. Alors nous, on avait l'Auvergne, Corrèze et la Creuse, capitale Limoges. Alors à Limoges, il y avait ça, et alors ça avait changé de nom. C'était devenu Direction régionale des affaires culturelles, parce que pour simplifier, on s'occuperait de tout. Alors ces gens-là, d'abord on les a pas vus. C'est comme la Genèse, vous savez, au début il n'y avait rien. Mais là, il n'y avait pas grand-chose. Alors, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'on existait. Il y en avait qui ne voulaient pas laisser la panique derrière eux, qui ont dit, ben, il faudrait bien qu'on sache ce qu'il faut faire des affaires qui se rencontrent. On s'est mis en rapport avec eux. Ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, ils se sont dépêchés de créer des postes. Mais ces postes... Ils n'avaient pas d'argent pour les payer, mais c'est toujours la même histoire. Alors, on a fait autre chose. Ils ont inventé la carte archéologique. D'ailleurs, c'était une bonne chose. Ils ont inventé cette carte archéologique et ils ont dit, il faut trouver des gens pour la faire. Et on a dit, mais ces anciens délégués départementaux, ils connaissent leur région, ils pourraient peut-être s'en occuper. Et puisqu'ils travaillaient avec des vacations, ben, là, on pourrait essayer quelque chose comme ça. Alors, ils ont essayé. Ça n'a pas été une réussite. Je m'empresse de vous le dire parce que ceux qui avaient été échaudés une fois n'ont pas voulu y revenir. Alors, ils ont été obligés de trouver d'autres systèmes qui existent toujours. On ne va pas faire de commentaires là-dessus. On va revenir à ces anciens archéologues. Alors, et on va venir plus exactement sur celui que nous connaissons le mieux, c'est Jean Wissoli. Tout de suite après la guerre, il y a une. D'abord, il y a eu la découverte, pendant l'occupation, de Lascaux. Alors là, c'était la bombe. Ça avait fait plus de bruit que la découverte de l'homme de la Chapelle au Saint en 1908. Ça en avait fait un peu, mais sur le plan philosophique, politique, religieux, tout ce que vous pouvez imaginer, ça avait chahuté un peu dans les écoles, mais à partir de là, ça n'intéressait plus personne. Mais là, l'affaire de Lascaux, c'était autre chose. Parce que très rapidement, il y a des gens qui ont pensé que c'était une affaire qui pouvait rapporter de l'argent, pas du tout. La preuve, on en est à Lascaux 4. Et la nouvelle s'est répandue très rapidement partout autour. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'a pas orienté les gens vers la préhistoire, mais ça les a orientés vers la spéléologie. Bon, avant, on ne connaissait pas trop cette affaire. Hein. Dans la région ici, pas du tout. Il fallait descendre sur l'Écosse, dans le Quercy, pour avoir entendu parler de Martel. Mais ici, Martel. Bon. Et à l'époque, il y avait un nommé Bernard Pierret, qui était sur la Dordogne, qui a remué énormément cette nouvelle. Comment dire, cette nouvelle mode, il faut bien dire, c'était parti avec la mode. Et on s'est mis à créer que tous ceux qui étaient sur des régions karstiques ou alors qui n'en étaient pas loin, on s'est mis à créer des groupes de spéléo. Bon. Et en Corrèze, on en a créé un. J'ai fait partie de ceux qui l'ont créé à l'époque. Et alors, le centre était à Tulle, pourquoi ? Eh bien, parce que les premiers qui ont eu l'idée de le créer étaient à Tulle, il est normal qu'ils l'aient créé là où ils étaient. Bon, sur Brive, on était moins nombreux, mais on a fusionné. Pour une fois, ça pouvait marcher. Brive et Tulle, ça marchait très bien. Seulement, nous, on était beaucoup plus près du Lot et de la Dordogne que, ce qui fait que toutes les fois qu'ils voulaient aller faire une expédition, il fallait qu'ils passent par Brive. Autrement dit, très rapidement, au point de vue organisation technique, ça s'est passé sur Brive. En plus, alors, qui faisait partie de ces groupes ? C'est ce qu'on peut se demander. Bon, est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est quoi ? Je ne sais pas. Mais les gens de Tulle étaient presque tous dans la magistrature. Alors, il y avait des avocats, il y avait des avoués, il y avait des notaires. Bon, les techniciens étaient sur Brive. Il y avait un ingénieur de radiotechnique, la radio aussi, votre serviteur qui s'est forcé de créer des tas de choses au point de vue équipement du territoire. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait encore dans tout ce moment ? Enfin, ça ne me revient pas entièrement à l'esprit. Mais finalement, tout ce qui était surtout technique, on l'a vu sur Brive. Tout ce qui était, excuserai du terme, mais un peu bourgeois, c'était. Ça n'a rien empêché, ça n'a pas fait de vagues pour autant, on s'est toujours très très bien entendu. Et tout naturellement, dans ces groupes de spéléo, il y a des gens qui se sont mis à s'intéresser à la préhistoire. Et les premiers, les premiers petits groupes se sont créés à l'intérieur de ces groupes de spéléo. Petit à petit, ils se sont un peu séparés parce que le côté scientifique, c'est une chose, le côté sportif, c'en est une autre. Nous n'avons pas eu, si vous voulez, et enfin, ils n'ont pas eu, ces groupes, les mêmes patrons, si j'ose dire. Et à Brive, ben, il y a eu un patron tout trouvé, c'est Jean Buissonni. Ah, il était plutôt jeune, Jean Buissonni. Mais il était toujours resté aussi vivace, aussi affable, et je devrais presque dire aussi attrayant, parce que c'était un homme, il attirait le regard, il attirait les gens. C'était le Monté même, c'était un homme très, très humble, mais qui il savait écouter tout le monde. Il savait recevoir tout le monde. Il ne disait jamais non à personne, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont servis beaucoup, beaucoup trop. Bref, Jean Buissonni devient le patron de ces nouveaux venus à l'archéologie préhistorique. Pourquoi préhistorique ? Parce que dans les grottes, c'est plutôt ça qu'on rencontrait. Et c'est ainsi qu'une demi-douzaine de gens de Thieu et de Brive se sont mis à faire de l'archéologie préhistorique. Mais ce n'est pas pour autant, tout ça, que le temps a passé, mais ce n'est pas pour autant que l'archéologie préhistorique s'apprenait ce soir. Il n'y avait pas de cours d'archéologie préhistorique. Même en fac, il n'y en avait pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, on était tous autodidactes. Hein. Même les Buissonni étaient des autodidactes. Même les grands patrons de l'époque. Qu'est-ce qu'on avait ? Ben, on avait ce qui avait été fait avant nous. Il y avait l'héritage que nous avaient laissé les anciens, les pionniers. Voilà ce qu'on avait. Et c'est avec ça que tous nous avons fait notre instruction en matière d'archéologie préhistorique. Évidemment, s'y ajouter d'autres choses. Tout dépend des études qu'on avait faites, tout dépend aussi le métier qu'on avait. Il y en avait qui vous rapprochaient de ces recherches, il y en a d'autres qui étaient plutôt des littéraires que des techniques. Et alors là, il va y avoir un grand chamboulement encore qui va arriver. C'est que les directions régionales des affaires culturelles vont vouloir prendre ça en main. Ben, ça faisait partie de l'apanage. Mais ce n'est pas pour autant que les gens qui étaient chez eux avaient des compétences. Et ce n'est pas une critique. Moi, j'ai horreur de critiquer. Je me contente de constater. Croyez-moi, il y a déjà assez de travail à faire. Bon, alors j'ai eu des contacts avec les premiers, parce que on savait que j'existais, Alors on me disait, ah ben oui, mais vous comprenez, vous êtes sur place, vous pourriez, etc. Bon, je dis, écoutez, je suis sur place, mais j'y suis bien, j'ai mon travail. Il n'y avait pas longtemps que j'avais reçu l'homologation en titre personnel pour m'occuper des affaires, des directions techniques et des études techniques pour les collectivités publiques. J'étais passé comme ça de 40 heures à 50 heures. Mon patron ayant eu l'idée géniale de m'associer à lui, de 50 heures, je suis passé à 70. Hein. Bon, il n'y avait plus de place, évidemment, pour s'occuper d'autre chose. Alors, je leur ai donné les éléments que j'avais. Et puis, petit à petit, ces directions régionales ont voulu asseoir leur autorité. C'est normal, il le fallait. Mais alors, ça a été fait d'une façon... Ça dépendait un peu des gens. Vous aviez des gens qui savaient attirer vers eux et qui ont continué à travailler dans le bon sens. Vous en avez d'autres qui ne savaient pas peut-être s'y prendre. On ne leur avait pas dit. Ils ont fait comme ils ont cru bien faire. Et nous sommes tombés dans une espèce, je ne vous dirais pas de marasme, parce que c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais on ne savait plus que faire. Bon, la loi sur les fouilles était sortie. Celle qui avait été créée sous Pétain, c'était une loi qui n'en était pas une, c'était plutôt un morcellement de responsabilité des gens qui étaient... Sous le régime de Vichy, il avait été créé des quantités de postes, comme ça, un peu partout, mais qui n'avaient pas de... si vous voulez, il n'y avait aucune... Et ça s'appuyait sur rien. Hein. D'ailleurs, un beau jour, Jean Buissonni... justement, ça va vous détendre un peu, parce que ce que je vous raconte, c'est peut-être pas très intéressant. Je dirigeais un chantier de travaux de restauration de village dans la région de Messac. Puis un jour, en téléphone, on dit « Faudrait que vous veniez, M. Gauchard, on a trouvé un squelette. » Bon, il manquait plus que ça. Bon, alors, je dis, écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas, et arrangez-vous pour qu'on n'y touche plus, mettez les protections autour, j'arrive. Le lendemain, je constate, évidemment, le premier coup de pioche qui avait été envoyé avait pulvérisé la moitié du crâne, mais en fait, il y avait tout le reste. Bon. Alors, je fais prendre des dispositions conservatoires, le squelette me paraissait ancien, mais ancien. Il n'était pas fossilisé, il était ancien. Bon. J'y voyais tout. Je reviens donc au bureau et puis j'en parle à mon patron. Je n'étais pas associé. Bon. J'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Ah, il me dit, attendez, mon fils aîné est à Bossuet. Et il a comme professeur un nommé Jean Buissonni, celui qui a découvert l'homme de la chapelle au Cerise. Voilà notre homme. Alors je suis allé là-bas, j'ai été bien reçu, j'ai fait pour la première fois donc la connaissance de Buissonni, un grand vieillard tiré à quatre épingles, un sourire très, très agréable, très ardent. Il m'a dit oui, il me dit je viendrai bien voir, ça m'intéresse. Mais vous savez, j'ai plus de voiture. En plus, pas une affaire, la mienne. Bon, allez vous chercher. J'ai dû le chercher, donc, le dimanche après-midi. C'est ça. Non, le samedi après-midi. Je viens le chercher, et on va sur place. Alors, il était sapé, vraiment de sortie. Hein. Je vois qu'il s'est presque mis à genoux, sur la terre. Il a demandé à la propriétaire du terrain, parce qu'elle avait fait un petit attroupement, alors ils m'ont vu arriver, et la veille, ils avaient vu arriver les gendarmes, qui sont repartis en disant, c'est peut-être pas de notre sort, hein, vous voyez le directeur des travaux. Hein. Là, il me voit arriver avec un curé, je me dis ce que c'était que cette histoire, ça allait nous amener. Et alors, il me dit, peut-être, on pourrait peut-être demander à cette dame si elle n'aurait pas quelque chose pour qu'on puisse le gratter. Alors la dame revient avec un eustache qui avait une lame longue comme ça, qui avait connu des jours meilleurs et qui servait surtout pour les pissenlits. Bon, alors il s'est débrouillé. C'était la première fois que je voyais effectuer une fouille comme ça. Pas la première, j'ai été surpris de la dextérité de ce boulot. Mais il faisait ça, un travail de chirurgie, mais à une vitesse prodigieuse. En rien de temps, toute la moitié haute du squelette qui est parfaitement conservée, il y en avait la moitié qui était à l'air. Bon. Alors, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas maintenant exactement ce qu'on va faire. Mais j'ai dit, j'ai cru comprendre que vous étiez... quelque sorte, la personne... Oui, mais comprenez ça. J'ai été nommé par Vichy, à cette époque-là. Puis j'ai dit, oui, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à en rougir, on n'a pas autre chose. Alors. Mais j'ai dit maintenant, eh bien, il dit, on ne m'a jamais dit que j'étais plus rien. Ben, je dis en vertu du principe qu'on vous a pas dit que vous n'étiez plus rien, on va supprimer que vous êtes toujours quelque chose. Moi, j'ai dit, ça m'arrange. Alors, on a fait un rapport. Lui a apporté son cru. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça maintenant? On va l'envoyer à Limoges. On l'a envoyé à Limoges, qui s'est empressé de ne pas nous répondre. Et puis, un beau jour, il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas et qui a dit, voilà, je viens de la part de la direction régionale, etc. Alors il a demandé à voir le Maccabée. Ah, ben, dit le Maccabée, il est à l'église de Colonge. Parce que l'église, la chapelle de Colonge, vous connaissez tous, cette chapelle servait de dépôt, de dépôt pour tout ce qu'on trouvait dans le sol, tout ce qui paraissait plus ou moins ancien, on allait le mettre là, faute de mieux. Bon. Et après, ben, après, je n'ai plus jamais entendu parler. Alors on a fait une publication, la première à laquelle j'ai participé en 1953. Et alors là, j'ai reçu une leçon d'humilité numéro un. Quand j'ai ouvert, alors j'avais fait mon rapport, il doit y en avoir 20 lignes. La signature, Jean Bouchard et Jean Wissoni. Mais j'ai dit, mon bonhomme, retiens ça et ton mouchoir par-dessus, ça te servira toute ta vie. Un type comme lui, les poches bourrées de diplômes, de hauts diplômes, de hautes études, très hautes études, un type qui avait fait toutes ses découvertes et le travail qu'il y avait avec et tout, il se mettait humblement en deuxième place, alors que toute la partie scientifique, c'est lui qui l'avait rédigé. J'en étais tout à fait incapable. Je m'en suis rappelé. Alors maintenant, bon, ben nous voilà arrivés donc au début de cette après-guerre à laquelle nous sommes pour le moment. Et alors là, la préhistoire va, l'archéologie préhistorique va se développer très très rapidement. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de cette avancée dans le domaine scientifique. Et dans le domaine, disons aussi, mathématique, si on veut, des Wissoni. Et il y a deux chercheurs de Bordeaux qui, eux, sont... alors, il y en a un qui était professeur à la fac, un autre qui était prof, son épouse qui était prof dans un lycée, je crois, mais tous les deux préhistoriens. Et alors... François Borde était en plus chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique Bordeaux. Et un beau jour, en allant chez Wissoni, que je voyais pratiquement une fois par semaine, je rencontre une dame qui me présente. Alors, il me présente, donc cette dame, et Madame Denise de Sonneville-Borde. Et cette dame, elle était venue pour voir Jean Wissoni, pour lui faire avoir, elle avait besoin de son avis pour une fouille qu'elle faisait avec son ami, avec son mari en Dordogne. Et Jean Wissoni lui avait parlé de moi, mais il ne pensait pas que j'allais arriver. Ce jour-là, je n'avais pas le jour fixe. Ah ben, il dit, tenez, voilà, M. Couchard, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon. 10 minutes après, je m'étais fait embrigader, mais ça m'a arrangé parce que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et elle m'a dit, vous savez, je suis en train de préparer une thèse. Est-ce que je pourrais voir le matériel que vous avez trouvé? Oui, c'est facile. Et alors, je l'ai amené à la maison. Première fois qu'on l'a vu, je lui ai montré le matériel parce qu'avec mon épouse, c'était mon adjoint, On faisait toutes nos fouilles, on a fait pendant 65 ans. Bon, alors on faisait tout ça au jour le jour. Et au fur et à mesure, évidemment, on classait ça provisoirement. Et alors je l'ai amené, j'ai dit voilà le matériel. Oh là là, elle dit c'est formidable. Elle dit alors c'est tout à fait ce qu'il me faudrait pour la thèse. Est-ce que je peux en disposer ? Oh, mais elle dit, vous inquiétez pas, je viendrai, je ne veux pas l'emporter, je viendrai, pour moi, j'ai mes habitudes, bon, elle avait un restaurant, un hôtel, pas où elle allait, elle m'a dit, bon, oui, je viendrai. Et me voilà embringué avec les gens du CNRS Toulouse, de Bordeaux, pour le meilleur et pour le pire. Alors, elle fait sa thèse donc, sur cette fouille qu'on faisait là-bas, qui était notre première ou deuxième fouille. Première. Vers là que c'est après. C'est bien ça. Je ne me rappelle pas plus que. Bon, en fait, c'est ça. Oui, c'était la première. Alors là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Bon, par là-dessus. Et nous voilà partis à faire. Alors. Elle m'a dit, vous savez, moi, je ne suis pas très fort en dessin. Mon mari, pas beaucoup plus que moi. Mais Chantal Brissoni m'a dit que pour ça, vous pouvez vous faire confiance que maintenant, vous étiez au prix. Je suis payé tous les dessins, mais ça, c'était normal, c'était pour tout. Et elle a fait donc toute la partie supérieure des études que je n'étais pas encore capable de faire. Et ça, fout. Bien. Et nous voilà partis maintenant avec ceux de Bordeaux. Et de là, ça a continué. Alors, son mari m'a donné vraiment des leçons de fouilles sur le terrain aux Isis, sur des gisements, sur un en particulier, particulièrement difficile. Il m'a appris comment il fallait s'y prendre. Moi, ensuite, j'ai transmis ça à d'autres. Et voilà comment nous avons commencé et nous avons continué à travailler, à continuer le travail de Jean Brissoni. Jean Brissoni nous a quittés en 1965. Et là, eh bien, ça s'est séparé. Les gens de Tulle sont restés de leur côté. Nous, nous sommes allés plutôt du côté du Lot, parce qu'on se sentait beaucoup plus attiré par la région là-bas pour une bonne raison. C'est qu'ici, nous sommes dans des terrains acides. Et les terrains acides dissolvent complètement toutes les matières organiques. Hein. Il n'en reste pas trace. Par conséquent, tout le matériel archéologique que l'on pouvait trouver dans la vallée de Planchetorte ou ailleurs, c'était toujours des cailloux. Tandis que quand on allait dans ces zones-là, que ce soit en Dordogne, que ce soit dans l'autre, on avait tout le matériel, y compris le matériel fabriqué avec des matières organiques. Et ça, il y en avait à foison, hein, avec de l'os, ivoire, etc. Et alors là, ça nous apprenait évidemment beaucoup plus de choses qu'avec nos éternels cailloux qui étaient toujours les mêmes, qu'on devait ici, là, c'était sa gravité partout sur une vingtaine d'outils qu'on retrouvait tout le temps. Tandis que là-bas, il y avait des évolutions. C'est là où, alors, dans la première, le premier gisement que nous avons fait, c'était dans la commune de Souillac, où on est tombé sur un gisement magdalénien qui était un peu plus récent que ce qu'on avait avec Planchetorte, mais alors très très riche au point de vue industrie aussi, au sol. C'est là que nous avons vu les premières aiguilles à chat. Vous pourriez coudre avec. Ouais, ça faisait quand même 12 000 ans. Bon, et après, de là, nous sommes partis sur la Dordogne avec le gisement de Balgoul qui avait été commencé par le docteur Chénier. Il avait acheté la moitié du gisement. La moitié. Est, c'est ça, la moitié est du gisement. Alors nous, on avait. Ah oui, parce que Jean Brissoni, quand il a vu qu'on s'était les autres que moi, nous avons été trois ou quatre, c'est à peu près débrouillé, comme on dit, en matière archéologique, ils nous avaient demandé d'aller compléter des travaux qu'ils n'avaient pas finis, eux, sur différentes fouilles. Évidemment, bon, ils commençaient là, ils commençaient ailleurs, tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fini, c'est rien. Et alors, Jean Brissoni, sur la fin de son parcours, avait voulu faire quelque chose, avait voulu rassembler un peu tout ça, faire un gros bouquin sur l'archéologie. Mais évidemment, il disait, écoutez, vous avez des méthodes de fouilles qui sont plus fines que celles qu'on employait, vous avez du matériel. On avait fait fabriquer du matériel exprès pour pouvoir travailler d'une façon plus rationnelle. J'aimerais bien que vous alliez vérifier les stratigraphies que nous avions données. Alors, stratigraphie, vous savez tout ce que ça veut dire, hein, c'est la bûche de Noël. Bon. D'une manière générale, nous n'avons pas trouvé de gros écarts. Je ne dis pas d'erreur, parce que l'erreur, c'est un mot qui est toujours mal entendu. Non, des écarts, oui, il y en avait, mais en gros, il n'y avait pas grand-chose à changer. Et alors, donc, nous avons refait la stratigraphie de la grotte du Pied de Vache, à Souillac, une grotte qui nous a donné énormément de matériel osseux. Nous avons repris le secteur ouest de Roucadour, que l'Allemand Hauser, avant la guerre de 14, avait complètement détruit à la pelle et à la pioche. Parce que lui, il avait une méthode de fouille qui était tout ce qu'il y avait de plus simple. Il faisait découper des parallélépipèdes de volume tel que le poids n'était pas excessif. Il avait fait fabriquer des caisses spéciales. Il mettait ça dans les caisses, hop, direction la Suisse, puisqu'il avait les deux nationalités, des Suisses allemands. Il faisait tout emporter là-bas. On n'avait qu'à voir, au point de vue scientifique, ce qu'on pouvait en tirer. Seulement, moyennant quoi, il avait bousillé la moitié du gisement de Bellegourde. Toute la moitié à lui. Tout était parti là-haut, sauf un morceau qu'il n'avait pas pu travailler pour une bonne raison. C'est la partie qui était dans la grotte, qui était trop basse. Et là, les ouvriers ne pouvaient pas travailler. À la pioche, je ne pouvais pas. Il y avait vite comme ça. Alors, c'est ce que nous avons repris. Jean Brissoni y était venu une fois et il nous avait dit « J'aimerais bien qu'on regarde ce qu'il y a de ce côté-là. » Alors, on a pris des relations, on a commencé les relations avec le docteur Chénier qui avait une très très mauvaise réputation, alors que c'était un homme tout à fait agréable à vivre. Seulement, il était ours. Il était, oui, voilà, il était bourru, comme ça. Alors qu'en réalité, c'était un très brave homme, et c'était un excellent archéologue. Très, très bon archéologue, il travaillait très minutieusement. Il faisait vraiment, il pratiquait ses fouilles comme il aurait pratiqué une petite chirurgie. Bon, et alors, nous avons donc travaillé à côté de Chénier et on a sorti, nous aussi, une publication. Et alors là, j'ai retrouvé donc Denis Sport, qui elle était en relation avec l'Institut de paléontologie humaine à Paris, c'est-à-dire le top niveau de la. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous ne publieriez pas à la rouge? Je dis, ils vont me mettre dehors. Non, elle me dit, envoyez-leur votre travail, ça m'étonne. Je leur ai envoyé, et ils l'ont accepté. Bon, et alors, donc, on a publié cette publication qui existe toujours, mais je ne sais plus s'il y en a beaucoup maintenant en circulation. Voilà. Et alors là, on va arriver aux années 60. Alors, les années 60, j'abandonne définitivement la région de Brive, autrement dit, tout ce qui est paléontologie, tout ce qui est paléolithique, c'est-à-dire toutes les anciennes époques de la préhistoire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que un nommé André Niederlander, que j'ai connu professionnellement quand il était maire de Rocamado, où j'avais sévi aussi, il étudiait à ce moment-là une grotte, qu'on appelle la grotte de Roucadour, dans la commune de Thémines, une grotte très très riche au point de vue matériel archéologique. Par la suite, il avait été découvert des peintures, puisqu'on a été mêlé à cette affaire. Bon, et André Niederlander ne savait pas dessiner. Il était déjà âgé, et il a voulu, à ce moment-là, faire une publication. Et il a été voir qui ? Le brave Jean Brissoni. Malheureusement, il ne pouvait plus. Il tremblait. Et il m'a dit, bon, écoutez, je vais vous demander un service. Est-ce que vous pourriez illustrer le travail d'André Niederlander ? Je dis, oui, vous savez, j'ai beaucoup de boulot. Oh, il me dit, ça me ferait plaisir si vous pourriez le faire. On va dire non. Je l'ai pris. Et puis un beau jour, André Niederlander me dit, monsieur Pochard, est-ce que vous pourriez venir dimanche, parce qu'il y a le docteur Arnal de Montpellier qui va venir. Moi, je n'ai jamais entendu parler du docteur Arnal. Effectivement, je vois arriver un monsieur pas très grand, brun, tout noir, et qui bougeait beaucoup. Et c'était lui, c'était un des grands, grands patrons des époques néolithiques et âge des métaux, c'est-à-dire les dernières époques de la préhistoire, pour le Languedoc, et même un peu plus loin. Bon, nous avons donc, on l'a accompagné à la grotte. Nous avons aidé un peu, mais enfin, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis, quelques jours après, il nous a écrit, il a dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de faire quelques dessins de plus pour le travail de Niederlander? Il n'ose pas vous le demander, mais... si vous pouviez le faire, ça m'arrangerait. Bon, il y a encore un qu'il fallait arranger. On s'est retrouvés là. Et on a commencé à travailler ensemble. Ensuite, ils ont découvert les peintures. Alors là, ça m'a échappé. C'est l'abbé Glory, dont vous avez entendu parler certainement, certains d'entre vous, l'abbé Glory qui s'en est occupé. Jusqu'au jour où, malheureusement, il s'était sur la route, la voiture, avec un de ses disciples, disons. Bien. Le docteur Arnal donc, me demande de l'aider. Et puis il me dit, quand vous descendez en vacances, arrêtez-vous à la maison. Alors, je commençais comme ça. Et puis, on travaillait ensemble. Et un jour, il est venu. Et je l'ai promené dans le Causse. Mais il dit, vous savez qu'ici c'est très riche ce que vous avez. J'ai dit, je le sais bien. Mais il me dit, il faut prendre ça en main. Je lui dis, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ça n'a jamais été fait. Mais il me dit, raison plus pour le faire. Bon, alors, je n'ai pas promis. J'ai dit, écoutez, je regarderai, je verrai. Puis finalement, ce qui s'est passé, on s'y est intéressé. On a découvert des zones archéologiques extrêmement importantes. J'ai juste en face de moi mon ami Jacques Plat, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et qui a fait partie de notre équipe quand on a commencé à faire les premiers relevés topographiques sur le Causse. Vous vous rappelez Vous êtes venu une fois, il y avait 5 cm de neige, et j'ai la photo, vous ne pouvez pas dire le contraire. Bon. Et on a relevé petit à petit tout ce qu'il y avait sur le Causse. Et puis, après, on a fait quelques publications là-dessus. Et le docteur Arnaud, le beau jour, me dit « Ah, je fais une thèse sur les dolmens en France. » Ce qui va se passer. Il ne pourrait pas me dire juste. Alors j'ai dit « Écoutez, je le fais, mais c'est la dernière fois. » Parce que je commençais, non, là il était bien brave. Mais... Eh bien, voyez-vous, cet homme m'a donné la preuve de ce que peut être une amitié. Une année, on a eu un accident de voiture. On a eu une 4 chevaux. Je ne m'en rappelle plus quelle en a été la raison, mais je sais qu'on est sorti de la route. On s'est retrouvé sur le dos. Et on venait de quitter André Niederland. Jean Arnal, il y avait quoi ? Un quart d'heure. On est encore sur ces terres. Bon, on a rencontré quelqu'un qui nous a récupérés, qui nous a amenés chez Arnal. Et puis, bon, il est sorti un tracteur, il est venu chercher la voiture, il s'est fait lui. Bon, et il a dit, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Et si on va faire, on va vous débarrasser de ça parce qu'il n'est pas récupérable. Et puis, on prend le train, puis on rentre. Et on avait notre fille qui, à l'époque, avait 8 ans. Il dit, vous n'allez pas la priver de vacances ? Ben, je souhaite qu'on fasse. Après, il me dit, venez avec moi. Il m'amène, ils étaient à, combien ? 10 km, même pas de Perpignan. Non, de Montpellier. Il me dit, venez avec moi. Il va là-bas. Il nous amène. Alors, on avait une Renault avant, on avait une Peugeot, on avait une Renault, on aurait été contents. Et là, il me dit, moi, je fais travailler Renault, on va chez Renault. Non, je n'ai pas les moyens sur moi de m'acheter une voiture, hein. Vous inquiétez pas pour ça, venez. On est venu, on a choisi une voiture, ouais, c'est là. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai dit, il faut que... de contact avec ma banque, avec truc. À l'époque, on n'était pas très fortunés. On avait des petits temps un peu partout, on ne savait pas bien comment ça allait se passer. Et vous inquiétez pas. Et on est parti en vacances avec une voiture que je n'avais pas payée, qui m'avait été offerte par Jean Arnal, sans savoir si un jour je pourrais la lui rembourser. Ça s'est bien passé parce qu'on avait les moyens de la lui rembourser. Mais en fait, il faut voir. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui vous proposeraient quelque chose comme ça ? Levez le doigt s'il y en a qui en ont connu. Pas épais, hein ? Bon. Eh bien, voilà qui était Jordan. Et puis, Jordan nous a quittés un jour. Il n'était pas très... Là, qu'est-ce qu'on avait, 10 ans d'écart ? Tout cassé. Tout docteur qu'il était, il est parti. Et là, nous avons donc cessé d'avoir des relations avec le Midi, la France. Enfin, on en a encore, mais c'est pas pareil. Et puis, nous avons donc continué à nous occuper du COS. On s'en occupe encore. La Société des Amis du COS s'est créée il y a une douzaine d'années, avec son siège social à l'ISAC, mais enfin, on l'a... Pour des raisons de confort, on l'a transporté à Saint-Cernin-de-l'Arche. Et nous continuons donc à travailler sur place. C'est-à-dire, je m'occupe de la partie archéologie préhistorique chez eux. Donc actuellement, on est en train de vouloir faire connaître cette région qui mérite d'être connue. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts de fait autrefois, à l'époque où c'était l'époque des pionniers. Ils ne savaient pas, ils travaillaient, mais on ne leur avait pas dit comment il fallait faire. J'ai commencé comme ça tout à l'heure, c'est avec une pensée que je finis. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de faire connaître ces régions. Ce sera avec plaisir si un jour, à la Société archéologique, vous voulez... que je vous fasse connaître la nécropole néolithique et de l'âge des métaux, de l'âge du fer de Saint-Cernin-de-l'Arche. Je suis à votre disposition et ce sera avec plaisir que nous vous amènerons sur place. En attendant, je vous remercie toutes et tous de votre patience et de votre attention.
Merci.